Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 26 novembre, Emmanuel Macron va-t-il calmer la colère des Gilets jaunes? Il va mettre en place demain un haut conseil du climat pour avancer des idées. La loi mobilité est présentée en ce moment au Conseil des ministres pour accompagner la transition écologique. En attendant, les Champs-Élysées pansent leur plaie. 47 personnes vont être déférées devant la justice après les barricades de samedi. Quelle a été l'importance des casseurs? Quel est le profil des personnes interpellées? Le gouvernement a-t-il géré au mieux cette manifestation? Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, répondra à toutes ces questions. Il sera l'invité d'RTL Midi dans un quart d'heure. La mort d'un empereur du cinéma italien, Bernardo Bertolucci, est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait notamment réalisé le très scandaleux Dernier Tango à Paris et le très oscarisé Dernier Empereur. Le jackpot du Black Friday, 50 millions de transactions par carte bancaire dans la seule journée de vendredi. Record absolu, c'est devenu le top départ des courses de Noël. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle.
C'est fou, on se croirait au mois de novembre.
Oui, ben ça tombe bien, on y est. Et on a effectivement le temps que l'on imagine pour le mois de novembre. C'est gris, c'est humide et ce sera comme ça toute la journée dans la plupart des régions. Quelques exceptions quand même. L'extrême nord-ouest, tiens, la Bretagne, la Basse-Normandie, où on aura quelques éclaircies. Ça n'empêchera pas également une averse. Et puis à l'opposé, près de la Méditerranée, là aussi, le ciel devrait se dégager. Parce que je regarde les images, là, c'est encore assez nuageux. Mais normalement, avec l'aide du vent, ça devrait quand même se dégager cet après-midi. Il neigera un peu en montagne, à basse altitude, hein, des 500, 1000 mètres, notamment sur les frontières de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il fera encore froid cet après-midi, on sera entre 5 et 9 degrés, pas plus dans la plupart des régions, 10 à 15 degrés quand même près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr à propos des Gilets jaunes. La manifestation à Paris a-t-elle été bien gérée par les autorités? Vous dites non à 78%, 16% de oui seulement. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle.
On va y revenir évidemment.
100% Gilets jaunes peut-être, vos témoignages sans doute, vos réactions évidemment, 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Comment entendre la colère des Gilets jaunes sans renier la transition écologique? Emmanuel Macron devra pratiquer le « en même temps » cette semaine avec la création demain d'un haut conseil pour le climat et peut-être des mesures d'accompagnement. En attendant, les Champs-Élysées se remettent doucement des scènes d'émeutes de samedi. 103 personnes ont été interpellées, 28 gardes à vue prolongées, 47 personnes vont être présentées à la justice, dont 27 dès aujourd'hui. Guillaume Chiez, quel est le profil de ces Gilets jaunes?
Eh bien, on sait que sur les coups de 10h30 samedi, les Gilets jaunes ont été infiltrés par 200 militants venus de l'ultra-droite. C'est eux qui ont initié les affrontements avec les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées. En revanche, parmi les 103 personnes qui ont ensuite été interpellées tout au long de la journée, peu de traces de ces militants radicaux. Les profils sont beaucoup plus disparates. On retrouve pêle-mêle des ouvriers, des mécaniciens ou des maraîchers âgés d'une vingtaine, une trentaine d'années. La plupart n'est pas domiciliée en Ile-de-France, inconnus de la justice. En fait, il s'agit de membres des Gilets jaunes qui se sont laissés griser, entraîner dans les violences. En fin de journée, les forces de l'ordre ont également interpellé une poignée de militants venus, semble-t-il, de l'ultra-gauche cette fois. Les 27 personnes qui seront jugées cet après-midi sont poursuivies pour violence, rébellion, menace de mort ou encore recel de vol.
Merci Guillaume. L'image de barricade sur les Champs-Élysées a fait le tour du monde. Aujourd'hui, l'avenue a été dégagée. On y circule presque normalement. Mélina Fachin, mais les commerçants, eux, évaluent les dégâts.
Oui, il y aurait encore au nettoyage, ramasser les débris de verre, protéger les vitrines fracassées, effacer les tags anti-Macron. 5 terrasses de restaurants ont été saccagées samedi sur l'avenue, dont celle d'Anthony Solvag.
Il manque une bonne trentaine de tables et une quarantaine de chaises. On a eu des gens qui sont venus carrément enlever les bacs à fleurs. Il m'en reste 13 sur 45. Et bon, le bac à fleurs, c'est pas donné, quoi. C'est 1000 euros le bac à fleurs.
Anthony estime qu'il en aura en tout pour 30 à 40 000 euros de réparation, sans compter la journée de samedi complètement perdue.
Chiffre d'affaires, un samedi, c'est 15 000 à peu près. On a fait 35 euros de chiffre d'affaires.
Même constat pour cette autre restaurateur des Champs qui a eu très peur.
On a perdu plus de 50 000 euros en une journée. C'était un enfer, on ne pouvait même pas sortir. On a subi des fumées, des gaz lacrymogènes, des jets de pierre, des insultes, des menaces. On avait plus l'impression d'une guerre civile qu'une manifestation.
Les commerçants espèrent surtout que le week-end prochain sera plus calme et que les touristes n'auront pas peur de revenir sur les Champs-Élysées.
Mélina Fachin, et pour revenir sur ce qui s'est passé samedi, je vous rappelle que le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera l'invité d'RTL Midi dans quelques minutes. Sachez aussi que sur l'île de la Réunion, le nombre de barrages est reparti à la hausse. hausse. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, s'y rendra mercredi. Elle promet des annonces, notamment sur le coût de la vie. La réponse de l'exécutif vient en deux temps. Demain, Emmanuel Macron va installer un haut conseil pour le climat avec des représentants des syndicats, des écologistes et des gilets jaunes et lancer des idées. En attendant, comme prévu, avant même le début du mouvement, la ministre des Transports a présenté ce matin en Conseil des ministres sa loi mobilité. Pas de vignette poids lourd, pas de péages urbains, mais des mesures pour favoriser le covoiturage. Ainsi, un salarié qui partage son véhicule pourra bénéficier de la part de son employeur d'un forfait de 400 euros par an défiscalisé. Chez Sodexo, spécialiste de la restauration collective, on encourage les salariés à pratiquer le covoiturage. Reportage de Marie Mollet.
Oui, depuis trois mois, Anne-Martine ne jure plus que par le covoiturage. Grâce à son entreprise, elle entre en contact avec des salariés d'autres sociétés à proximité via une application mobile.
Je prenais un bus, le RER A, le RER B, 2 heures à peu près matin et 2 heures le soir. En fait, c'est un enfer. Je pensais que j'habitais au bout du monde et Klaxine m'a rapprochée avec beaucoup de covoitureurs d'entreprises voisines qui habitent à proximité de chez moi.
Et les travaux du RER A cet été ont précipité le choix de Sodexo, déployer en urgence une solution de covoiturage. Hugo a immédiatement mis sa voiture à disposition.
Amortir les frais, puis pour pas être tout seul, entre guillemets, quitte à prendre ma voiture, essayer de limiter mon impact.
Et le covoiturage, c'est aussi un choix stratégique pour l'entreprise, explique Hervé Bruno, responsable de la communication interne.
De favoriser ses employés, la qualité de vie de ses employés, on sait aujourd'hui pertinemment que c'est un élément clé en matière de performance économique.
Et la solution a eu un succès immédiat. Sur 220 salariés, 80 utilisent l'application Klaxit depuis cet été.
Reportage Marie Mollet. Revenons-en donc à Emmanuel Macron qui va donc installer un haut conseil pour le climat demain avec des représentants des syndicats, des associations écologistes et des gilets jaunes. Olivier Bost, que va-t-il faire ? Faire des annonces ou lancer des idées ?
Alors l'idée demain, c'est de trouver le moyen de renouer le dialogue avec les Français avec un but, un seul but, rendre acceptable la transition écologique. Alors il ne s'agit pas du tout de changer de cap, de revenir sur l'augmentation des prix du carburant le 1er janvier. Il s'agit demain d'un changement de méthode, c'est ce qu'explique l'Élysée. Il n'y aurait donc pas d'annonce concrète, contrairement à ce qui avait été envisagé la semaine dernière. Demain, Emmanuel Macron va lancer donc ce Haut Conseil pour le climat avec des experts de cette question. Mais pour que ça ne soit pas un comité Théodule de plus, entre spécialistes, il y a l'idée d'y associer les Français avec des rencontres dans toute la France. À l'heure où je vous parle, je dois avouer que tout cela reste quand même assez flou. Emmanuel Macron devrait aussi donner demain de grandes pistes de réflexion, de négociation, explique aussi ses conseillers, le mot est prononcé, négociation. Ce grand dialogue, un peu sur le modèle de la grande marche de son parti pendant la campagne présidentielle, pourrait amener, pourquoi pas, à de nouvelles mesures. Demain, le chef de l'État n'annoncera donc pas de nouvelles dépenses, mais ouvrira en grand une nouvelle boîte à idées pour répondre aux gilets jaunes.
Voilà, et le concret, on le trouve surtout dans la loi mobilité qui est présentée en ce moment au Conseil des ministres. Merci Olivier. Une amende record contre un bateau pollueur. Le capitaine américain d'un navire de croisière, l'Azura, épinglé fin mars à Marseille avec du fuel trop polluant, vient d'être condamné à 100 000 euros d'amende. C'est une première judiciaire dans notre pays. Dans un instant, le décès d'un grand cinéaste italien, Bernardo Bertolucci.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il était le dernier empereur du cinéma italien. Le réalisateur Bernardo Bertolucci vient de mourir à Rome à l'âge de 77 ans. Oscarisé pour Le Dernier Empereur, justement. Il avait aussi réalisé Le Dernier Tango à Paris. C'était un homme de cinéma, Stéphane Boutsock, à la fois romanesque et politique.
Oui, on l'appelait le cinéaste de la transgression sociale, politique ou sexuelle, ce qui n'excluait pas en effet un petit peu de sentiment. Bertolucci avait fait ses classes auprès de Pasolini ou Sergio Leone et ses films 17 en un demi-siècle était le reflet de cette double influence assez particulière. Premier coup d'éclat, 1972, vous en parliez, Le Dernier Tango à Paris. Imagine la relation sulfureuse d'un homme mûr, d'une jeune femme, Marlon Brando, Maria Schneider et la fameuse scène, scandale, de la sodomie et du beurre.
Qu'est-ce que tu fais ? Non, non !
Le film donne à Bertolucci une dimension mondiale. Il en profite pour tourner 1900 avec Robert De Niro et Gérard Depardieu, fresque sociale de l'Italie pré-fasciste du début du XXe siècle.
Les fascistes, c'est pas comme les champignons qui poussent au hasard en une nuit. Non, les fascistes, c'est les patrons qui les ont semés, qui les ont voulus, qui les ont payés. Et avec le fascisme, ils ont commencé à gagner de plus en plus. Et alors ils ont inventé la guerre. Qui paye ? C'est le prolétariat, les paysans, les ouvriers, les pauvres !
1987, le cinéaste entame sa trilogie spirituelle avec Le Dernier Empereur, qui raconte le destin tragique de l'ultime souverain de la cité interdite à Pékin. 9 Oscars récompenseront ce chef-d'œuvre, suivi d'Un thé au Sahara, puis de Little Buddha, qui révèle Keanu Reeves en 1993. Bertolucci avait ensuite eu plus de mal à financer ses rêves. Son dernier film, 2012, Moi et toi, marquait son retour en Italie. Il avait reçu une Palme d'Or d'honneur en 2011 à Cannes, la même où en 1990, alors président du jury, il avait sacré Sailor et Lula de David Lynch. Cinéaste comme lui, flamboyant et intime.
Merci Stéphane Boutsock pour ce portrait de Bernardo Bertolucci. Carlos Ghosn révoqué aussi du conseil d'administration de Mitsubishi, une décision logique après son éviction de Nissan sur des soupçons de malversation financière. Mitsubishi, le plus petit de l'alliance composée avec Renault-Nissan et qui vend 1 200 000 véhicules par an, se sépare donc de celui qui avait volé à sa rescousse en 2016. Cette affaire continue de faire la une des médias japonais et la façon dont Carlos Ghosn a été débarqué inquiète les patrons français présents dans l'archipel, Philippe.
L'arrestation de Carlos Ghosn aurait été facilitée par la nouvelle loi de juin dernier du plea bargaining, encourageant la délation en échange d'une remise de peine pour des salariés complices de fraude. Un bouleversement culturel au pays où la remise en cause directe d'un ordre est impensable et une application retentissante de la loi dont personne n'est dupe, Frédéric Madeleine, PDG des pâtisseries Le Pommier.
Carlos Ghosn est quelqu'un d'emblématique, qu'on a voulu certainement taper sur quelqu'un d'emblématique, d'autant plus qu'il est étranger.
L'affaire dérange, les responsables des grands groupes français au Japon n'ont pas souhaité s'exprimer et pour Jean Barthélémy, PDG de GB Consultancy à Tokyo, elle pourrait laisser des traces.
Il y aura une certaine défiance des administrateurs français de filiales au Japon vis-à-vis de leurs collaborateurs. C'est pas quelque chose de positif, mais c'est pas de nature à remettre en cause un projet d'implantation.
C'est en tout cas l'avis d'Éric Vicard. Sa société EasyMile est en train d'ouvrir sa filiale au Japon.
Le marché japonais est un marché cible. Nous n'avons aucune raison d'arrêter les efforts que nous avons lancés déjà depuis plus de 2 ans.
Une certaine sérénité, à condition, bien sûr, de ne pas faire perdre la face à son partenaire japonais.
Philippe Dova, envoyé spécial d'RTL au Japon. Les premiers chiffres du Black Friday, ces super soldes avant les soldes auxquels vous n'avez pas pu échapper la semaine dernière. 50 millions de transactions par carte bancaire, record absolu. C'est une information RTL que vous nous dévoilez, Martial Liu. C'était donc Happy Friday pour les commerçants.
Et oui, plus fort que l'an dernier où on avait déjà battu des records au Black Friday. Puis lors des 2 week-ends qui avaient précédé Noël 2017, on a dépassé cette fois vendredi les 1000 transactions à la seconde, à certains moments de la journée. Le Black Friday, c'est d'abord un événement sur Internet et les paiements se font par carte bancaire, donc ça booste les opérations bien sûr. Mais surtout, si on regarde les performances de samedi, on voit que beaucoup de Français ont sans doute anticipé leurs achats vendredi pour éviter d'avoir à sortir ce week-end. Le week-end a été largement en dessous de la moyenne habituelle, moins qu'un samedi traditionnel. Il y a bel et bien un effet gilet jaune sur la consommation le week-end. Je vous rappelle que les grandes surfaces font un quart de leur chiffre d'affaires le samedi.
Merci Martial. Dans un instant, on revient sur ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées samedi. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, est l'invité d'RTL Midi.